France Inter.
Avec ses quatre mâts de 37 mètres de hauteur, Canopé, navire français, déploie 1500 mètres carrés de voilure. Grâce à la puissance conjuguée de ses moteurs et du vent, ce cargo hybride transportera les éléments de la fusée Ariane 6 jusqu'en Guyane.
C'est le premier cargo moderne du genre, 120 mètres de long, avec des mâts rectangulaires plus hauts que des immeubles haussmanniens pour hisser de gigantesques voiles. Canopé est deux fois plus grand que la fusée Ariane 6 qu'il transporte en morceaux. Ce navire vient de traverser l'Atlantique, du Havre jusqu'au port de Kourou. Il doit encore effectuer d'autres voyages jusqu'au décollage. Canopé est un cargo à moteur et à voile, un cargo à propulsion vélique. Un modèle pour les armateurs qui cherchent à adapter leurs navires marchands face au durcissement de la réglementation environnementale. L'Organisation maritime internationale réclame une réduction drastique des émissions de dioxyde de carbone d'ici 15 ans. Sur les mers et les océans, 70 000 cargos charrient dans leurs cales 90% du commerce mondial. Si on les dote de voiles, ils consommeront moins de fuel.
Sur un bateau à moteur, en fait, quand il y a du gros temps, le bateau se met tellement à rouler que les pompes vont désamorcer et qu'on va perdre la propulsion. Sur un bateau à voile, plus il y a du vent, plus on va vite. Donc on n'est pas sur un voilier, on est vraiment sur un bateau de travail.
Pour faire voguer ces cargos plus écologiques, une multitude de petites et moyennes entreprises françaises rivalisent d'idées, comme quand elles préparent une course au large.
Les contraintes techniques de la course au large, de traverser des océans avec de la robustesse, de la fiabilité, qui arrivent en plus de la simple notion de performance, elles amènent à développer cette excellence, ce savoir-faire, qui permet de répondre aux besoins d'autres industries.
Des fleurons de l'industrie française se positionnent sur ce marché, comme Michelin avec son projet Wizamo, acronyme anglais qui signifie « aile, voile et mobilité ». Le fabricant historique de pneus est en train de perfectionner une voile gonflable sur le bateau du navigateur Michel Desjoyeaux, double vainqueur du Vendée Globe. Et c'est à bord de ce navire, en Bretagne, que nous embarquons d'abord au milieu des ventilateurs. Cargo à voile, la France a le vent en poupe. Un reportage signé Antoine Gignot, accompagné de Virginie Lorda à la prise de son.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
N'importe quoi.
Fais-le monter si tu veux, on va voir ce qui se passe.
Il y a deux pour mille là.
Vous avez vraiment ça devant ?
Oui.
Ok.
Voilà, t'as entendu les ventilos qui commencent à pousser. À partir d'une certaine hauteur, il envoie les ventilos pour gonfler le truc.
Grand soleil sur la Trinité, on est en train de sortir du chenal, on double la dernière bouée avec l'équipe de Wizamo au téléphone qui surveille le système informatique à distance, système installé sur ce curieux bateau voilier sans aucune voile mais dont on va déployer l'aile gonflable avec Michel Desjoyeaux.
Là, la voile est remplie d'air grâce au ventilateur.
Avec une entrée d'air devant, hein.
Pour le moment, à l'avant du berceau.
Et un mât qui fait combien ?
Presque 17 mètres.
C'est ce mât télescopique qui est en train de monter vers le ciel dans une jolie brise. On a 15 nœuds de vent, 30 km/h à peu près. Une petite houle et un très joli mélange de bleu et de vert qui s'étale devant la proue du bateau. Un peu plus loin, on aperçoit Quiberon, Belle-Île et le début de l'océan Atlantique.
Alors on va aller au premier rive déjà. Et là, je lui ai dit, ça y est, maintenant que tu es arrivé à destination, on va faire de la voile. Et donc, il a bordé la voile. En mode manuel, c'est nous qui allons choisir de combien la voile va se déployer. Et après, on a une manette des gaz. On appuie sur l'accélérateur et si on met le pied au plancher, il va aller chercher l'angle optimum pour que le bateau avance.
Ça y est, on le sent d'ailleurs, l'accélération.
Ça y est, c'est parti. Alors, écoute, c'est bon, Jérôme, je te libère.
Juste information, au niveau de l'incidence, j'ai baissé les accélérations pour voir s'il tenait bien.
D'accord. Ok, on va regarder ça. Merci.
Oui.
On est grand large, on doit être à 120 degrés du vent à peu près, du vent réel. Et on est à 90 degrés du vent avec 17 nœuds de vent apparent.
Et
on marche déjà à 6 nœuds pour ce qui est la vitesse tout à fait normale pour un bateau de ce genre-là.
Je me rapproche, enfin je descends un peu parce que le bateau commence à être sévèrement incliné.
Un petit peu. La machine se débrouille et régule en fonction de la gîte maximum qu'on lui a mis.
C'est-à-dire
20 degrés. Donc cette partie régulation de gîte se fait de façon complètement automatisée et c'est le robot qui le gère. Sur ce bateau-là, le mât est suffisamment costaud pour que le bateau se couche sans que le mât casse. Sur un cargo, forcément, on a un bateau qui est énorme et donc c'est l'automate qui va gérer la surpuissance de la voile pour pas casser le mât, forcément.
Comment est-ce qu'on maintient la pression à l'intérieur et comment elle tient gonflée cette voile?
Alors, elle tient gonflée parce que le vent s'engouffre par l'avant du berceau et est dirigé par les ventilateurs vers l'intérieur de la voile, hein, vers le volume de la voile qui est gonflée. Il y a à l'intérieur un mât télescopique, cette souplesse, un peu comme une canne à pêche télescopique avec des tubes de mât de plus en plus fins vers le haut.
Et on voit la voile pivoter là.
Voilà. On va voir à l'intérieur.
Ça va aller ? La marmite est toujours une autre chose, une autre chose.
Finalement, pour Michelin qui fait des pneus de voiture ou de camion ou d'engin, un pneu de voiture c'est autour de 2 bars, 2 bars et demi. Là on parle en millibars et on est à quelques millibars.
Si on appuie sur la voile,
on peut la repousser très facilement, ce que vous n'arriverez pas du tout à faire avec un pneu de voiture bien gonflé.
On s'enfonce, oui.
Avec du tissu très léger, beaucoup plus léger qu'une voile classique de cette même taille. Et donc là, vous entendez le bruit des ventilateurs, hein, c'est eux qui font le plus de bruit dans le système. Là, par exemple, moi je suis assez tranquille sur le pont du bateau, il y a le pilote automatique que j'ai enclenché qui gère la trajectoire du bateau, ce qui me permet d'être disponible pour vous expliquer comment marche tout ça. On va pouvoir mettre ce système dans les mains de gens qui seront peut-être beaucoup moins compétents que nous en voile, mais c'est pas grave, on aura fait, nous, l'effort de leur apporter quelque chose qui leur permettra d'être plus efficace. C'est sûr que si vous donnez une Renault 5 à un pilote de F1, il va un peu s'ennuyer, il n'y a pas beaucoup de choses à améliorer. Mais par contre, la Renault 5, elle est peut-être facile à utiliser parce qu'il y a des gens qui se sont donné du mal, des pilotes de F1, mais aussi des ingénieurs en amont. Là, c'est aussi la démarche que l'on fait avec ce projet Wizamo. Alors, vous allez vous baisser et on va faire un truc un peu marrant, on va regarder si ça marche. Et je vais lui demander de changer de cap. N'ayez pas peur, ça va peut-être un peu pencher. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc voilà, moi je m'occupe avec mon pilote automatique que j'ai ici. J'ai juste la télécommande du pilote automatique. Je peux juste changer le cap du bateau.
Et rien d'autre.
Et rien d'autre. Et tu vois que la voile se débrouille du reste. Elle s'oriente correctement pour que le bateau... ne gîte pas trop, mais suive la trajectoire que je lui ai demandé de suivre.
Ça, c'est vraiment le début d'une industrie un peu différente de ce qu'on connaissait.
Alors, d'une industrie, on n'y est pas tout de suite encore, mais d'une ère nouvelle, oui. Et aujourd'hui, on a des prévisions de vent qui sont de plus en plus fiables et longues, et aussi des outils de calcul. Un cargo, il va d'un point A à un point B presque tout droit, pour faire le moins de route possible. Un bateau hybride, peut-être dans un premier temps, qui va utiliser du diesel, mais aussi de la propulsion vélique. Il va faire un mix entre une trajectoire la plus courte et une trajectoire où il va utiliser l'énergie du vent, qui elle est gratuite.
Une petite houle de travers.
Le géant mondial Michelin est en train de mettre au point un cargo à voile. L'objectif est de rendre beaucoup moins polluant le transport maritime qui est aujourd'hui l'un des plus gros émetteurs de CO2.
Des voiles gonflables immenses pour que les vents puissent proposer une énergie plus propre à ces géants des mers. Tankers, pétroliers, porte-conteneurs, rouliers, ils sont près de 60 000 à naviguer sur les mers du globe chaque année. Le retour de la voile est donc un enjeu écologique,
mais aussi économique. Je m'appelle Gilda Kemener, donc je suis responsable du projet Wizamo, supporté par le groupe Michelin. J'ai 50 ans, je suis passionné de voile.
L'idée, c'est vraiment de mesurer à chaque fois, hein, d'avoir le plus possible de données sur le comportement de cette voile-là.
Il faut accumuler des heures de navigation. C'est la seule façon de travailler la robustesse du système. Et donc tout ce qu'on va retirer des essais, c'est ça qui va nous permettre de corriger le système pour finaliser la mise au point et faire en sorte qu'il soit le plus robuste possible. Pour être intégrable sur un navire de la marine marchande, il faut être ultra sécuritaire, parce que la sécurité à bord, c'est primordial, et très robuste, parce que les conditions sont un peu extrêmes.
L'idée à terme, c'est de déployer une aile de 800 mètres carrés à horizon 2026.
On est sur début 2026 pour le premier exemplaire. On est déjà en train de travailler avec un... Alors, c'est un affréteur américain qui travaille sur un braquier, un très gros navire.
Très gros, ça veut dire
235 mètres de long.
Un test grandeur nature.
Ouais, alors c'est un test qui est super intéressant pour nous parce que c'est aussi ce qu'on appelle un rétrofit. C'est-à-dire qu'on va s'implanter sur un navire existant. Et donc il faut savoir qu'il y a, en théorie, là, à partir de 2026, déjà, il y a un nombre significatif de navires qui ne seront plus aux normes, qui ne répondront plus en fait aux nouvelles exigences réglementaires. Et donc on voit qu'on a d'ici 2040, qui est la prochaine échéance fixée sur les émissions de CO2 dans l'industrie du transport maritime, on a des navires qui aujourd'hui, quand ils sortent, vont devoir vivre 25 ans, parce que c'est la durée de vie moyenne d'un navire, mais qui ne passeront pas en fait ces échéances de 2040. Donc on a une vraie problématique d'équiper les navires existants et pas uniquement de s'implanter sur des navires neufs.
Sachant qu'on a dans le monde environ 70 000 cargos qui tournent.
Oui, on a à peu près 60 000 navires aujourd'hui à l'heure où on parle qui naviguent, qui transportent 90% de toutes les marchandises commercées dans le monde. Donc c'est un pourcentage colossal. Ça représente 3% des émissions de CO2 mondiales. Et on sait déjà que si on ne fait rien, ça représentera 17% en 2050. Donc il faut faire quelque chose.
Ça veut dire aussi qu'il y a un marché. Vous savez me dire la fourchette de ce qui a été investi depuis le début du projet et jusqu'à terme qu'on arrive à cette voile de 800 mètres carrés.
Alors, vous donner un chiffre précis, c'est peut-être un peu délicat, mais toutes les solutions véliques représentent des investissements en dizaines de millions d'euros. Nous, on est rendu de ce point de vue-là à peu près à, on va dire, 30% de notre développement. Donc, il reste encore un effort substantiel à faire. Donc, Michelin nous accompagne dans cette démarche. C'est-à-dire que Wizamo fait partie de ses paris.
Ce pari fait par Michelin, il est resté longtemps secret, développé dans un laboratoire à l'écart du reste du groupe en périphérie de Fribourg, en Suisse. Un endroit où plusieurs dizaines de scientifiques, d'ingénieurs sont payés pour développer des idées originales. C'est eux qui ont créé la pile à hydrogène Symbio, le pneu increvable sans air ou les moteurs inclus dans des roues de voiture. Jusqu'ici, aucun journaliste n'est entré dans l'enceinte du labo depuis sa création il y a près de 30 ans. C'est une zone industrielle en périphérie de Fribourg, avec un grand hangar métallique. Pas de signe particulier, si ce n'est ce rideau de barbelés.
Bonjour. Bonjour. Je suis Antoine Gignot, j'ai rendez-vous...
Avec Monsieur Pleine.
Absolument.
Tenez. Votre téléphone, s'il vous plaît. Je dois juste obstruer les objectifs, en fait. Je vous le rends directement après.
Voilà. Merci beaucoup.
Juste passer le badge
sur le lecteur
pour passer le tourniquet.
Parfait. Ouais. Merci, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Bonjour. Bonjour. Bruno Fanière, ingénieur en mécanique.
On arrive dans un petit atelier avec l'aile qui est posée sur un grand plan de travail, on peut appeler ça comme ça.
Oui, on est dans le petit atelier Wizamo dans lequel on fait des petits prototypes d'ailes gonflables.
On a du tissu blanc, dégonflé évidemment. Qu'est-ce que c'est comme matériau? Parce que le matériau a une place prépondérante là-dedans.
Oui, tout à fait, c'est un matériau léger, bien plus léger que ce qu'on a dans les voileries standards. Et là, c'est un prototype de 40 mètres carrés. C'est une des premières ailes qu'on a fabriquées ici. Vous pouvez venir voir l'intérieur ici.
Ça ressemble à de l'imperméable, presque à du kawaii.
Oui, exactement. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est plus ou moins les mêmes grammages. C'est des voiles légères, comme on a sur les bateaux, des voiles de spi ou des choses comme ça.
Le labo et le banc de test, vous avez une soufflerie et une partie du mât, c'est ça?
Oui, ça, c'est le mât pour le banc d'essai aérodynamique. Donc, c'est la structure qu'on a là à côté sur laquelle on teste les performances aérodynamiques de l'aile. Il y a un système de mesure, on a des capteurs de force. Là, on arrive à définir aussi la hauteur à laquelle s'applique la force. Avec ce moteur-là, on pilote la rotation de l'aile pour la mettre dans la bonne position par rapport au vent. Durant l'année 2019, on fait quelques premiers essais pour définir un peu la performance de l'aile. Et par la suite, durant l'année 2020, là, on commence à construire les premières ailes. Et c'est là aussi qu'il y a Michel Desjoyeaux qui entre dans le projet.
Donc là, on est passé d'une aile prototype à une aile de 200 mètres carrés, puis à une aile de 800 mètres carrés. Le but ultime, c'est quoi?
On est parti sur 800 mètres carrés. Après, ça va dépendre aussi de la taille des bateaux.
On voit d'ailleurs les racks de rangement un peu partout, et puis on aperçoit les outils, des bobines. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? Vous pouvez me décrire un peu? C'est des bobines en face?
Oui, c'est des projets qui sont confidentiels.
Ah d'accord, ça on ne peut pas en parler. Ok.
Donc là on a tout plein de matériaux typiques du monde nautique. C'est,
oui, là,
c'est des poulies, c'est des manilles, c'est des taquets, c'est vraiment du matériel nautique. Alors la version finale, il y aura probablement beaucoup plus d'acier dans l'aile. Et pour le moment, sur les premiers prototypes, on est plus dans les matériaux composites, carbone, fibre de verre.
Alors, on est devant...
Alors, j'ai eu plusieurs choses.
Devant l'ordinateur. Qu'on parle un petit peu justement du design et de la forme. On est très proche d'une aile, c'est pas un hasard si on appelle pas ça une voile.
Oui, là on voit une simulation, donc c'est l'écoulement d'air en trois dimensions autour de l'aile. Et avec cette simulation, on ressort toutes les forces que l'aile produit. Alors le rendement le plus efficace, il est quand le vent arrive sur les côtés du bateau. On essaye de changer les épaisseurs du profil et les longueurs d'aile pour avoir le maximum de performance.
Mon nom est Edouard Kessy, je suis l'inventeur de la voile gonflable.
Vous avez vendu le brevet à Michelin. Avant, il y a eu toute une phase de développement. On la voit là, la photo originelle de cette aile. Comment est-ce que vous l'avez construite?
Alors, le secret de notre développement, c'est qu'on a développé un profil symétrique. Donc, symétrique, ça veut dire qu'on a un intrado et un extrado dont la forme est exactement la même. Un peu dans l'ambiance d'un avion d'acrobatie où l'avion peut voler sur le dos ou sur le ventre sans différence de performance. Le deuxième secret de notre aile gonflable, c'est qu'elle est totalement équilibrée. C'est-à-dire que les centres de force et de poussée sont quasiment centrés au niveau du mât. Ce qui fait que quand on a un équilibre, on peut développer une aile de 10 mètres carrés, de 100 mètres carrés ou de 1000 mètres carrés. Et en fait, les différences d'efforts sont quasiment identiques. Donc on peut créer des voiles pour des grands bateaux de transport, des tankers, des porte-containers, etc. Alors le point le plus important qui a changé, en fait, c'est l'évolution du tissu, du textile, comme on l'appelle. Ici, c'est encore des ailes avec des membranes en textile classique. Donc on n'a pas encore intégré les nouveaux tissus dans ce genre de développement. On est encore à la base de prototypage. Mais dans le futur, c'est sûr qu'on pensera dans du composite.
Ce composite, mélange de plusieurs matériaux, essentiellement résine et carbone, est plus léger, plus performant. Il permet le nouvel essor de cette industrie des voiliers cargo. Avec le durcissement de la législation pour freiner le réchauffement climatique et protéger la biodiversité des océans, les armateurs sont contraints de s'adapter. En optant pour les cargos à voile, ils espèrent réduire de 30 à 50% les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'aujourd'hui, le transport maritime maritime représente 45% de la consommation mondiale de fuel lourd, 5% de la consommation mondiale de gasoil. Cette industrie revisitée des voiliers cargo a le vent en poupe dans ce qu'on appelle la Sailing Valley, la vallée nautique au sud de l'Orient. De nombreuses sociétés y travaillent depuis des années sur les courses au large et elles mettent leur savoir-faire acquis dans la compétition au service de la marine marchande du 21e siècle. On retrouve Antoine Gignot dans l'une de ses entreprises de pointe chez Havel Robotics.
Interception.
Bonjour.
Sur France Inter.
Bonjour, Herman Kemar. Donc je m'occupe de suivre la fabrication des manchons qui vont relier les tronçons de mât pour ces futurs paquebots et cargos.
On arrive devant un gigantesque bras mécanique.
On peut comparer ça à quoi ? Une imprimante 3D, mais pour le carbone ?
C'est une grosse imprimante 3D, effectivement.
Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à ce qu'on savait faire comme procédé traditionnel qui était plutôt la construction à la main ?
Ça permet de produire des pièces dont la résistance mécanique va être supérieure à un drapage manuel. Ça fait longtemps qu'on voulait mettre des voiles sur les cargos, mais les progrès technologiques en matière de matériaux composites font que maintenant c'est possible.
Pourquoi la France plus que les autres ?
Ben, la France déjà parce que si on regarde un petit peu toutes les courses au large depuis une quarantaine d'années, à part les Anglais, il n'y avait pratiquement que des Français en fait.
Donc on a développé un savoir-faire adapté à cette filière.
Ah oui, oui, même les coureurs, qu'ils soient américains, allemands ou même anglais, viennent en France faire construire leur bateau.
Un robot comme ça, c'est quoi comme investissement ?
On est au-dessus du million d'euros pour un robot. On en a deux robots, donc, et un troisième peut-être bientôt.
Olivier Cardentu, je suis président de SMM Composite.
On est à l'intérieur d'un hangar gigantesque avec le profil d'une partie de ce qui sera ce futur mât de 66 mètres de long. En face de la section, ça ressemble quasiment à un tunnel.
Ouais, c'est ça. Donc on est sur la partie basse du mât et la section fait environ 2 mètres par 1,50 m de large. Donc on peut tenir debout dans le mât quand il est à l'horizontale.
Ce qu'on entend derrière nous, là, c'est les machines qui fonctionnent, c'est quoi ?
Alors, on a plusieurs machines. On a, donc dans le composite, on a beaucoup de procédés qui sont sous vide. Donc, on entend les pompes à vide tourner.
La part de cette activité-là sur votre chiffre d'affaires global, elle est stable, elle est en croissance, c'est quoi aujourd'hui ?
Alors, elle est en croissance. Hein. Il y a 3 ans, on n'avait pas de travail autour de ces marchés de propulsion vélique. Aujourd'hui, on est à peu près 20% de notre activité dans ce secteur-là. Et on sait que c'est un secteur d'activité en croissance. Donc, on pourrait atteindre 30-40% dans les années qui viennent sur ce marché. Ouais.
On va sortir de l'entrepôt, regarder un peu le site industriel qui est en train de se construire juste à côté. Aujourd'hui, vous êtes à l'aube de créer une usine avec plusieurs intervenants, avec les chantiers de l'Atlantique qui ont initié cette construction.
Ouais, bah, l'idée c'est qu'après avoir passé la phase de prototypage hein, sur des grandes pièces comme ça, il faut les industrialiser pour faire baisser les coûts de production, ce qui est le cas dans toutes les productions. Et donc du coup, pour faire baisser les coûts de production, il faut dessiner une usine autour du produit et donc créer une chaîne de production dédiée. Et donc c'est en ça que le projet de nouvelle usine à côté se monte.
On avance un peu. On est vraiment sur le chantier, les pieds dans les cailloux, près des pelleteuses, avec la bétonnière qui tourne, sur le futur site industriel.
C'est ça, donc là, bâtiment d'environ 5000 m² qui accueillera plusieurs dizaines de personnes dans les mois qui viennent pour produire ces fameux mâts pour les chantiers atlantiques.
On sera capable de faire quoi en termes de volume, de sortie, de mât ? Vous avez une idée ?
Alors je sais pas si c'est si j'ai droit de communiquer sur ça, mais l'idée c'est de produire des mâts pour environ 4 à 5 bateaux par an. Quoi. On a fait un prototype en plusieurs années et ensuite il faudra faire plusieurs pièces en une année. Ouais, c'est clairement une autre échelle. Bah, je pense qu'on a pris les bonnes pratiques des prototypistes dans la course au large justement pour faire un produit high-tech. Et maintenant, on va dire que les métiers qui sont autour de ces projets-là sont plutôt des métiers d'industrialisation. Ça reste cher à produire parce qu'on est en phase prototypage. Ensuite, en phase série, c'est là que ça devient intéressant.
Moi, mon rêve, c'était de construire des bateaux, de faire ces
François Gabart.
Ces grandes courses au large, le Vendée Globe, le record du tour du monde. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer à construire des bateaux, à inventer des bateaux, et qui ne vont pas faire que gagner des courses.
Extrait du documentaire de Canal+, Gabar, quand gagner ne suffit plus.
Aujourd'hui, je travaille pour des technologies qu'on développe sur nos bateaux qui vont servir l'ensemble du monde maritime. Des cargos à voile qui vont être capables de transporter de la marchandise à travers l'océan Atlantique sans utiliser d'énergie fossile. Pour mes enfants, pour les générations futures, on doit inventer des bateaux qui sont capables de se déplacer de manière la plus durable possible sur les océans. Aujourd'hui, c'est ça mon rêve.
Je suis Denis Katz et je suis investisseur dans un fonds de capital investissement dans les sociétés non cotées, PME françaises, qui s'appelle REG pour Responsible Growth, qui veut allier la performance financière et la performance extra-financière.
Aujourd'hui, vous investissez combien en fourchette et qu'est-ce que vous attendez comme rendement ?
Alors nous, on investit des tickets entre 5 et 10 millions d'euros par investissement. Généralement, on fait 10 investissements par fonds pour répartir les risques. Et on attend un multiple sur notre investissement de l'ordre de 2,5 à 3 fois, qui représente pour les investisseurs qui nous confient leur argent une vingtaine de pourcents en termes de taux de rendement interne.
En tant que financier, qu'est-ce qui vous rassure ? Qu'est-ce qui vous assure aussi que l'investissement sera rentable ?
C'est un secteur qui est extrêmement foisonnant et qui est au début de son développement. Donc il y a plein de projets, plein de prototypes complémentaires, alternatifs. Et c'est extrêmement intéressant pour nous. Il y a des systèmes de transport maritime à voile où là, ce sont des clients de haut de gamme, hein, typiquement des opérateurs type LVMH ou autres, qui veulent pouvoir démontrer à leurs clients que les produits qu'ils achètent sont transportés de façon responsable. Et donc ça aussi, on a aussi une demande du coup du client privé qui vient compléter l'impératif de décarbonation que demandent les pouvoirs publics.
Il y a la réglementation, mais il y a aussi l'image.
Exactement. Et d'ailleurs, un des projets pour lesquels... on est dans la croisière de luxe, mais un des projets, c'est un navire de croisière qui s'appelle, je crois, Silent Seas, qui est développé par une Orient Express, qui est une filiale d'Accor, qui est un navire de croisière qui a vocation à être extrêmement responsable et notamment qui est propulsé par un mât et des voiles qui permet d'économiser du carburant. On parle de 20 à 40% d'économie, quoi, donc c'est pas rien quand même. Ouais. Tout ce qui contribue à la transition environnementale, que ce soit à l'économie d'énergie, à l'éco-conception, au recyclage, c'est un secteur extrêmement porteur. C'est aussi pour ça que nous, on a choisi dans notre fonds cette verticale, c'est qu'il y a une très très forte demande des clients publics, privés, et qu'effectivement, c'est assez récent, cette accélération.
Financer plusieurs types de solutions pour plusieurs types de fret. Certains cargos seront adaptés, d'autres vont être conçus spécifiquement pour la navigation à la voile. C'est le cas de Grand Sail, une entreprise qui importe du cacao et du café d'Amérique du Sud, qui exporte du vin vers les États-Unis et qui aimerait aussi proposer un service de transport à disposition d'autres sociétés. Grand Sail vient de mettre à l'eau un cargo de 50 mètres de long, capable de naviguer avec 350 tonnes de palettes. Antoine Gignot nous emmène à bord le jour du baptême du navire.
France Inter, Interception.
Inauguration en fanfare sur le port de Saint-Malo avec le long du quai du Guétrouin, pas très loin des vieux gréements qui sont amarré devant les remparts, cet énorme voilier baptisé Grand Sail 2 et qui représente aujourd'hui l'exemplaire unique de cargo à voile.
Olivier Barrault, président de Grand Sail et cofondateur. Alors on se trouve à côté de la timonerie principale. Donc là on est finalement sur la partie rouge, là donc dans la zone de manœuvre.
avec tout le tableau de commande, qui est extrêmement étoffé. Hein. On n'est pas du tout sur un voilier.
On est sur de la
classique.
Marine marchande, et donc on a tous les systèmes qu'un cargo peut avoir. Donc là, ce sont les systèmes de nave, évidemment, de contrôle du navire, mais également tous les systèmes de report d'alarme. Radio, radar, voilà, c'est un peu la totale, forcément.
Devant, on a le pont avant avec des enrouleurs et des pièces d'accastillage qui sont surdimensionnées par rapport à ce qu'on connaît sur un voilier classique.
En fait, ça reste encore un cargo de taille modeste, mais par contre, ça devient un énorme voilier avec des capacités de charge qui sont quand même importantes. C'est un bateau qui pèsera 600 tonnes. Chargé, donc en fait ça amène un dimensionnement sur les haubans par exemple qui est totalement inhabituel et qui relève plus des haubans qu'on trouve sur des ponts par exemple, sur des ponts routiers. Donc là on est en diamètre 52 par exemple en câble cellule fermée, donc c'est totalement délirant.
52 c'est quoi? C'est plus de
52 mm avec deux mâts en carbone qui frisent les 50 mètres. Oui, c'est un programme forcément atypique. Ouais.
L'idée, justement, c'était d'avoir de la résistance et de la fiabilité sur la longueur, puisque c'est un bateau qui va tourner 200-250 jours par an.
C'est un navire qui va vraiment fonctionner de façon intensive, donc il faut gérer également la fatigue du matériel. Donc il y a un surdimensionnement qui est fait également pour ça. Mais surtout, on a prévu que ce bateau, un jour, se trouvera forcément au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça peut arriver, donc il peut prendre des ouragans sur la tête. Il peut arriver à 200 km/h. On est plus en sécurité sur un navire comme ça, avec 200 km/h de vent, que dans une maison en Bretagne, quand tout commence à voler. Ça, c'est prévu pour.
Pourquoi des voiles traditionnelles plutôt que ce qu'on développe en ce moment avec à la fois des voiles qui se gonflent, à la fois des voiles en matériaux composites?
Ouais, il y a plusieurs technologies possibles. Là, on est sur des mâts carbone, donc c'est quelque chose de très moderne, mais c'est surtout qu'on n'avait pas le choix. L'aluminium ne tenait pas les niveaux de charge qu'on impose au gréement. C'est un gréement type Marconi, en fait, classique, gréement goélette. Ce type de gréement nous va bien, parce que c'est très performant et ça permet d'avoir des économies carbone qui sont massives. Et donc nous, on sera à 90%, 95%, voire 97% de réduction des émissions carbone par rapport à la référence de l'ADEME, qui est à 20 grammes d'émissions par tonne transportée par kilomètre. Donc on est à peu près à 2 grammes, voire 1 gramme avec ce navire-là. Et ça, c'est record du monde, hein, très clairement aujourd'hui, et ça va durer quelques années. Il y a une limite à l'exercice, évidemment, avec ce navire qui ne peut pas transporter plus de 350 tonnes. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis. Mais pour des bateaux plus gros, il faut qu'ils soient quand même bien construits pour réellement décarboner. En fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'il ne suffit pas de mettre des voiles sur un navire pour décarboner. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et si ce n'est pas très bien fait, ça ne marche pas, en fait. Ça ne décarbone pas. Donc, faut faire attention à ça, c'est bourré de pièges. Faut de l'expérience.
Alors moi c'est Loïc Briand, je suis le directeur général de l'armement maritime de Grandsail. Ce bateau il est vraiment fait pour aller naviguer en Atlantique Nord, en hiver. Alors on dit souvent vive le vent d'hiver, c'est un peu de saison. Nous le vent d'hiver on l'aime bien parce qu'il nous fait bien avancer. Quand on monte au haut du mât, on est à plus de 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et quand on regarde le clocher de Saint-Malo, on a l'impression de le dépasser. Mais non, ça va être un joli bateau qui est très fort toilé et qui va vraiment pouvoir naviguer à la voile. Sur un bateau à moteur, en fait, quand il y a du gros temps, il y a un moment où on est obligé de se mettre à ce qu'on appelle à la cape. Le bateau se met tellement à rouler que les pompes vont désamorcer et qu'on va perdre la propulsion. Sur un bateau à voile, plus il y a du vent, plus on va vite. Et ce bateau, il est dimensionné pour aller dans tous les temps, en fait.
Mais ça existe ailleurs ou c'est vraiment unique?
Dans ma tête, il y en a plein d'autres, mais sinon, ça n'existe pas.
Mais est-ce qu'on peut imaginer grossir encore ou il faut des solutions techniques différentes?
Alors là, on arrive à un seuil technique où si on veut faire des bateaux plus grands, on va arriver à des niveaux d'échelle où on ne pourra plus mettre des gréements qui sont à la taille du navire. Par contre, ouais, on peut continuer de développer et nous, c'est vraiment notre objectif. Aujourd'hui, on ouvre nos cales à des chargeurs en développant la flotte pour transporter moins, transporter mieux. Moi, quand j'ai commencé à naviguer dans la baie de Cancale, effectivement, je voulais faire de la voile. Mais le métier n'existait pas et aujourd'hui on est en train de le créer. Et l'objectif il est là, c'est de regarder l'avenir de façon positive en sachant que de toute façon les générations avant elles ont merdé. Qu'on ne pourra pas tout rattraper mais que c'est pas pour ça qu'il faut être dépité et qu'on est capable d'avancer avec des beaux bateaux en décarbonant vraiment.
Vous avez travaillé sur des unités plus traditionnelles?
Alors moi le transport à la voile, en toute honnêteté, j'avais jamais envisagé d'en faire parce que c'était que des bateaux en bois. et faire du transport de marchandises, pour moi ça m'intéressait pas parce que c'est aller d'un point A à un point B. Tenir le quart dans des passerelles où on voit pas un bateau pendant 4 heures de quart, c'est chiant en fait. Hein.
Alors moi je suis Romain Burgos, je suis second capitaine sur Grand Sail. Alors là on est en train de relever un peu nos écoutes.
Tout est surdimensionné en fait, quand on regarde les cadènes, quand on regarde les enrouleurs de phoques à l'avant.
C'est sûr que c'est un dimensionnement qui est assez nouveau pour ce genre de bateau. Nous aussi on est aussi impressionnés par la taille, on a hâte de commencer à tirer un peu dessus.
On retrouve un peu du risque qu'il y avait dans les... On n'est pas très loin des vaisseaux historiques là, qui sont amarrés devant le port de Saint-Malo, la marine marchande du 19e.
Ah, on n'a rien inventé, on retourne vers cette marine-là qui était la plus verte, qui était 100% énergie renouvelable, et c'est ce qu'on est en train de retrouver ici, chez Grand Sail.
Vous avez fait quoi avant et pourquoi vous vouliez venir ?
J'ai travaillé dans de la croisière d'expédition, et puis au bout d'un moment, je me suis posé un peu des questions sur pourquoi est-ce que je faisais ce métier-là. Pouvoir raccorder un peu l'aspect marine marchande de notre métier avec la voile qui, moi, est une de mes passions.
Je m'appelle Yann Jourdan, je suis capitaine de Grand Sail 2 et je suis originaire de la région Malouine.
Petite cuisine et puis deux tables.
Ouais, une table au vent, une table sous le vent. Quand le navire va giter, quand on sera sous voile, on sera 8 membres d'équipage à la mer. Donc la cuisine, c'est un vrai poste sur tous les navires du monde.
Bon. On descend ?
Ouais.
Allez, je vous suis.
La chaudière à pellet. Parce que le bateau est chauffé au pellet.
Donc pas de groupe électrogène.
Pour l'eau chaude non plus. L'eau chaude sanitaire et le chauffage, c'est poêle à pellet.
Là aussi, l'idée, c'est d'être le moins impactant possible sur le bilan carbone.
Tout à fait. Stéphane, chef mécanicien.
Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Vous me parlez justement de la mécanique ?
Que vous dire ? On a juste un moteur Baudouin à bord qu'on va essayer d'utiliser le moins possible, justement.
Une hélice qui recharge les batteries, des panneaux solaires.
On aura deux hélices, en fait. C'est deux groupes hydrogénérateurs, en fait, qui vont être mis en place. Et puis après, à terme, avoir toute la consommation, justement, pour diminuer au maximum ce qu'on a le besoin à bord. Et puis, bah voilà, faire de la voile, quoi, sans utiliser le gasoil. C'est le but, hein.
Allez, ça, c'est la zone de chargement. Dans un couloir de sous-marin, tellement il y a des armoires électriques, des câbles partout, des tuyauteries.
Alors ici, on arrive en cale. Le navire est pourvu de 4 cales. Ici, nous sommes dans la cale arrière supérieure. Le navire peut charger 240 palettes, soit 350 tonnes.
Avec une hauteur sous barreau qui est pas... gigantesque, hein, ça doit faire 1m80, on touche la tête.
On charge des palettes qui font une hauteur maximum d'1m70 et 1,4 tonne à 1,5 tonne par palette, avec du coup cette petite machine électroportative qui nous sert à gonfler nos coussins d'air, qui sert à faire le calage de la marchandise et à répartir la pression sur les palettes.
D'accord, on voit bien le sac là, hein, qui est effectivement gonflé.
On voit bien les sacs ici qui calent les palettes entre elles.
L'idée, c'est d'avoir des chargements qui sont en plus relativement fragiles lorsque c'est du vin.
Oui.
Vous avez des grues ou des palans pour les descendre, hein.
Alors, pour charger notre marchandise, on est complètement indépendant, c'est-à-dire qu'on charge nos marchandises avec nos propres grues qui se trouvent sur le côté tribord du navire. On a un système de lève-palette, la grosse structure jaune que vous voyez, qui sert à descendre les palettes dans les cales.
Ça veut dire qu'on échappe aussi au circuit traditionnel. On n'a pas besoin d'être dépendant des ports, du circuit des dockers, des attentes dans les ports.
Sujet épineux, puisque les dockers sont forcément impliqués, puisqu'il s'agit de charger ou de décharger de la marchandise. Donc les sociétés de dockers doivent forcément être impliquées. Mais on a nos propres grues. Est-ce que ça permet d'aller plus vite ? On verra.
On remonte. C'est poignée d'en bas.
Ouais, je vais ouvrir sur le dernier.
Donc, jour d'inauguration, jour de baptême pour le bateau.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a fait venir, qu'est-ce qui vous attirait dans ce projet-là?
Alors moi je suis issu de la marine marchande classique avec un parcours à l'ENSM de Marseille puis de Nantes. J'ai fait une partie de ma carrière dans la marine marchande classique, c'est-à-dire le transport de marchandises ou les navires à passagers, les ferries, la croisière, etc. Et une autre partie de ma carrière sur les grands voiliers traditionnels comme le BLM, le projet Grand Sail, je le suis depuis le départ. Pour lâcher le terme, c'est le côté éthique du projet qui m'a attiré ici et pouvoir faire de la voile, mais tout en étant utile.
Armelle Le Dréau, je suis présidente de l'association du Bural de Saint-Malo.
Bonjour, je m'appelle Noël Blouet, je suis élève à l'École nationale supérieure maritime de Saint-Malo.
Et Basile Filion, élève en première année aussi à l'École nationale supérieure maritime de Saint-Malo en officier mécanicien.
Alors quand on voit la part du transport traditionnel dans le monde et 75 000 cargos qui tournent autour de la planète, on se dit que c'est une goutte d'eau dans un océan de transport de marchandises.
Une goutte d'espoir, mais c'est une goutte d'eau qui amène aussi l'espoir dans tout ce transport qui est quand même très très polluant. Et c'est un exemple à suivre. Surtout de voir un bateau comme ça qui arrive de 50 mètres de long, c'est superbe.
Il y a un changement générationnel un peu là quand on vous voit.
Il y a une envie de bosser pour quelque chose de plus éthique. Personnellement, dans tous les amis que j'ai dans la même formation, on n'a plus trop envie d'aller bosser par exemple pour Total ou pour des choses dans le genre qui auront un impact carbone qui est désastreux. Et on a envie de penser à un avenir un peu plus vert, quoi, un avenir un peu plus beau.
Moi, je pense que c'est important que le consommateur se pose la question de quel chemin a pris son ouais. produit, de ne pas se poser la question que de la qualité du produit, mais aussi du chemin qu'il a pris.
Ouais. Grand Seul, je trouve qu'ils sont très forts là-dessus, de se dire « Ok, on produit, mais aussi regardez comment on transporte. » Quand on regarde un produit, on regarde son origine, on regarde qui c'est qui l'a produit, et après, où est-ce qu'il est arrivé, quoi.
Il y a un argument marketing aussi dans la tête du consommateur.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Ça ne va pas non plus retirer tous les gros bateau de charge, on va pas refaire le monde comme disent Grand Sail, mais c'est déjà une avancée franchement exemplaire.
Je pense qu'on est tous sur l'environnement.
Ouais. De toute façon, on est les petites mains de la mondialisation en quelque sorte, et puis bah notre travail sera à l'image des transformations à venir, quoi. Nous, on est là pour opérer ça et on espère le faire dans la plus verte des manières.
François Lambert, directeur général de l'École nationale supérieure maritime.
Ce sont les élèves de la dernière promotion de l'école qui sont parrains de ce Grand Sail 2. Qu'est-ce que cette initiative représente en termes de symbole, au-delà de la solution technique? Est-ce qu'il y a un vrai changement dans les mentalités des élèves qui arrivent chez vous?
C'est très révélateur de la motivation et de la grande conviction que portent aujourd'hui nos élèves quand ils aspirent à une carrière maritime. Une carrière qui doit permettre de connaître les rudiments de la navigation, mais qui ne s'envisage plus de la même manière aujourd'hui. Et donc on ne reste pas à l'école par hasard, mais on n'y rentre plus complètement par hasard, et la transition énergétique elle est un facteur évident pour motiver les candidats qui vont rentrer à l'École nationale supérieure maritime.
Ouais, c'est un vrai argument de dire on change de modèle, on change de paradigme.
Ah, c'est un vrai argument. Alors après, dans transition énergétique, il y a aussi transition, donc il faut connaître évidemment le transport maritime mondial actuel, c'est-à-dire que c'est un transport qui est carboné, qui va vers la décarbonation. Et dans cette phase de transition, d'évolution, nos élèves, leur différence, elle sera sur la compétence qu'ils ont en matière de connaissance des nouvelles propulsions, mais également sur du moteur et sur des compétences plus originelles de ce qu'est la marine marchande actuelle et de ce qu'elle était auparavant.
Pour autant, quand on regarde la totalité des navires qui circulent, on est quand même très loin d'un changement total. Quelle évolution vous voyez dans les années qui viennent, et puis quelle part peuvent représenter les énergies décarbonées?
la part des énergies carbonées, elle va s'imposer de toute façon avec les réglementations internationales. L'Organisation maritime internationale a décidé d'un abaissement de 40% et de 50% d'ici à 2040 et 2050 sur des référentiels des années 2000. Et donc, ça s'impose à nous. De facto, on a un transport maritime mondial qui va devoir évoluer avec d'autres types de transports. Et il faudra être capable de connaître la navigation avec du méthanol, avec de l'ammoniac, avec du GNL, avec la voile, avec l'hydrogène.
Il y a un symbole un peu quand même, hein, à être là à Saint-Malo, entre des navires, on a des vieux gréements au bout du quai, on a ce navire qui sort tout juste des chantiers.
Il y a un très beau symbole, je ne sais pas si on peut dire bon voyage à qui que ce soit devant les remparts de Saint-Malo, mais en tout cas c'est un très beau symbole, celui de la reconstruction d'un transport maritime propre, en tout cas qui envisage de l'être, et avec une école en plus qui est nouvelle, puisque c'est une école nationale supérieure maritime, ce ne sont plus les écoles nationales de la marine marchande, on est sur une école qui est tournée vers l'avenir, l'ingénierie en génie maritime, d'autres types de compétences, la digitalisation, le transport, la transition énergétique, le management. Et nos élèves, eh bien, sont des élèves qui sont capables de très grandes choses. Et ce qu'on va voir aujourd'hui en eux comme capacité, c'est assumer cette transition énergétique du maritime.
Cargo à voile, la France a le vent en poupe. C'était un reportage d'Antoine Gignot, accompagné à la prise de son par Virginie Lorda. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Guillaume Leduc et Julien Doumac. Cette émission est d'ores et déjà disponible à la réécoute sur le site de France Inter et sur les plateformes du groupe Radio France.